Chapitre 17. Le lendemain de la réunion au sommet de la pyramide, Nietzsche retourna à la tour du pouvoir où le Douma des sorciers était en session. Dans la grande salle, Thora et Maxime avaient pris place sur leur trône. Vêtue d'une robe orange et violet brillante qui mettait en valeur ses formes et ses magnifiques yeux verts, la Sovréna arborait une coiffure pyramidale encore plus compliquée et acrobatique que la précédente. Superbe sous tous les aspects et irradiant la confiance, elle semblait être l'incarnation même du pouvoir. En l'absence de questions urgentes, les membres du conseil n'étaient pas au complet. Mais Elsa, Reine et Quentin furent finalement rejoints par Ivan, le dresseur en chef, venu directement de la reine. Le front lustré de sueur, le souffle un peu court, il paraissait d'une humeur de dogue. Probablement habitués à le voir ainsi, ses collègues ne se formalisèrent pas.
J'ai dû tuer deux animaux de plus aujourd'hui. Une panthère du désert et un sanglier tacheté. Avec mon don, je réussis en général à les soumettre, même s'il faut casser des os ou faire exploser des vaisseaux sanguins. Mais ces deux-là ne rendaient pas gorge. J'ai eu besoin de Dorbeau, un de mes apprentis, pour les calmer à coups de massue. Un gaspillage de temps et d'énergie, tout ça.
L'air dégoûté, comme s'il avait envie de cracher sur le sol, Ivan balaya la salle du regard.
Où est André ? C'est lui qui a créé ces bêtes.
Dresseur en chef, fit Maxime amusé, il t'a peut-être lancé un défi.
Des défis, j'en ai plus que mon compte,
grogna Ivan en se laissant tomber sur son siège. Nietzsche était invité pour observer, pas pour interférer. De sa place, dans l'alcôve du public, près des grandes fenêtres qui dominaient la ville, elle voyait et entendait tout. Plissant les yeux, elle se concentra pour capter les interactions entre les membres du conseil. Selon ses premières impressions, le Douma d'Ildakar n'avait pas une once de compassion pour le reste de la cité. Comment ces gens avaient-ils réussi à faire fonctionner la ville alors qu'elle était isolée de tout, et ce pendant quasiment 15 siècles? Si les éclats de miroirs plantés dans les ruelles étaient un indice fiable, on pouvait postuler que l'utopie d'Ildakar serait rongée par la contestation comme une maison en bois par des termites. Malgré le scepticisme et le vague dégoût que lui inspirait la société parfaite, la magicienne se souvint que ses compagnons et elle étaient des invités à Ildakar et qu'elle avait mission d'y faire connaître la parole du seigneur Ral. Si silencieuse qu'elle fût, elle n'avait rien d'une potiche. Ces gens l'ignoraient, mais ils découvriraient bientôt à qui ils avaient affaire. Nathan aussi était présent, mais il semblait d'une humeur contemplative. À dire vrai, il n'était pas dans son assiette depuis sa rencontre de la veille avec André. Pour qu'il soit taciturne, Nietzsche le savait, il fallait que l'ancien prophète ait un gros problème. Même si elle n'était pas prête à le lui proposer ouvertement, Nietzsche serait disposé à l'aider si une occasion se présentait. Convaincu d'avoir besoin des sorciers d'Ildakar, le vieil homme n'était sûrement pas plus dupe qu'elle de la société parfaite. Bannon déboula à son tour. Ses beaux atours du banquet oubliés, il portait son solide pantalon, reprisé et nettoyé, au-dessus de ses bottes de voyage. Pour la chemise, en revanche, il avait choisi un modèle du cru, aux manches amples, resserrées au poignet. Comme toujours, solide battait sa hanche gauche. Nathan aussi était armé, et personne ne s'inquiétait de voir des invités se balader partout avec des lames mortelles. Un indice, selon Nietzsche, de la confiance que les conseillers avaient en leur magie. Quand le jeune rouquin entra dans la salle, tous les regards se braquèrent sur lui. Les sourcils froncés, Thora ne cacha pas que la présence de ce non-détenteur du don la dérangeait.
« Tu n'as rien de mieux à faire avec mon fils et ses amis ?»
Comme s'il n'avait pas perçu la mauvaise humeur de Thora, Nietzsche aurait juré que c'était de la comédie, Bannon haussa les épaules.
« Je vais m'être avec Amos et les deux autres, mais je veux aussi passer du temps avec Nietzsche et Nathan. Pour trouver votre ville, nous avons fait un long voyage. »
Et nous sommes heureux que tu viennes t'asseoir avec nous, fiston,
fit Nathan en désignant un siège près du sien. Puis il se leva, sortit de l'alcôve et se racla la gorge, comme si la réaction de Thora l'incitait à se mêler au débat.
Le sorcier de chair, André, dit-il, se concentre sur un nouveau projet qui l'occupe entièrement. Je suis sûr qu'il s'est excusé d'avoir dû manquer cette session du conseil.
« Il est rarement présent, »
lâcha Maxime ironique.
« Le plus souvent, nous sommes contraints de faire sans son agréable compagnie. »«
Quel dommage !»
railla Thora.
Il travaille à une création spéciale pour la reine,
dit Ivan en époustant le devant de son pourpoint en peau de panthère.
Je lui ai donné tout le temps qu'il faudra, mais il pense en avoir terminé bientôt.
Quand Nietzsche coula un regard perplexe à Nathan, le vieil homme fit semblant de n'avoir rien vu et reprit la parole.
Avant de s'occuper d'autre chose, André a pu identifier la cause de mon problème. Selon lui, suite au bouleversement induit par le changement stellaire, j'ai perdu mon cœur de sorcier. André réfléchit à un moyen de corriger ça. Il a des idées, mais rien de bien précis pour le moment.
Au moins, ça veut dire que ta faiblesse n'est pas contagieuse,
intervint Rennes.
Quand André sera-t-il capable de te soigner?
Il finira mon projet avant,
grogna Ivan. Distraitement, il massa un bleu sur un de ses biceps, puis sembla se demander comment il l'avait récolté. Sans grand enthousiasme, Nathan alla dans le sens du dresseur.
Ce défi le passionnant, il ne s'en détournera pas avant d'en avoir terminé.
J'espère que ce ne sera pas trop long, souffla Maxime. Être dans ton état doit se révéler douloureux. Ne pas pouvoir lancer le moindre sort, l'impuissance totale.
Nathan s'empourpra.
Je n'utiliserai pas vraiment ce mot.
Tant que tu seras incapable d'invoquer la magie,
siffla Thora,
ta position parmi nous sera des plus précaires. Pour l'heure, tu es un invité, mais si tu veux demeurer ici à tout jamais, on ne pourra pas rester sur ces bases.
Nietzsche entendit un signal d'alarme dans sa tête. C'était la deuxième fois que Thora évoquait cette possibilité.
Nous n'avons aucune intention de rester,
rappela-t-elle.
Quand le linceul se remettra en place de manière permanente, vous n'aurez peut-être pas le choix. Dans ce cas, nous ne pourrons pas vous laisser rétablir le linceul.
Ce défi sembla surprendre la Sovréna, mais Nietzsche enfonça le clou.
Ici, nous avons une mission à accomplir.
Richard l'avait explicitement chargé de repérer la tyrannie et l'oppression. Si la magicienne s'en tenait là, elle devrait chambouler le système politique d'Ildakar. Cette cité en valait-elle la peine? Même si la Sovréna et le sorcier en chef ne cherchaient pas à dominer le monde, contrairement à Jagang, ils étaient une menace pour la liberté.
Je doute que vous ayez envie de m'avoir ici pour toujours.
Avant que Thora ait pu répondre, des bruits de pas et des cris retentirent venant du pied de la tour. Puis, ces sons se firent entendre dans l'escalier jusqu'à ce qu'un petit groupe déboule dans la salle. Tournant la tête, Nietzsche, Nathan et Bannon virent trois femmes imposantes qui poussaient devant elles un jeune type malingre vêtu des frusques d'un esclave. Sa courte chevelure semblant avoir été taillée avec une cuillère aiguisée, il était pieds nus, le visage maculé de boue et peut-être aussi d'excréments. Sous la crasse, on apercevait des contusions et il regardait autour de lui comme une bête traquée. Non sans surprise, Nietzsche reconnut le jeune berger qui conduisait un troupeau de Yaksen et s'était fait rudement sermonner par le capitaine Avery. Mais l'attention de la magicienne fut irrésistiblement attirée par les femmes qui accompagnaient le garçon. Ces guerrières semblaient exclusivement composées de muscles, à croire qu'un sorcier de chair les avait fabriquées avec des barres de fer et des ressorts avant de donner à ce squelette une apparence féminine. En pagne de cuir, une simple bande du même matériau autour de la poitrine, elles avaient les bras et les jambes nus et portaient des sandales renforcées de fer lacées très haut sur leurs mollets. Ce qu'on voyait de leur peau n'était pas couvert de tatouages, comme on aurait pu s'y attendre, mais de runes d'Ildakar, imprimées au fer rouge. Ainsi, elles devenaient des grimoires ambulants, à l'instar de Mra ou de l'ours monstrueux que les trois voyageurs avaient dû tuer en chemin. Malgré cette caractéristique, les trois femmes à demi nues restaient d'une incroyable beauté.
La puissance incarnée et une sensualité bestiale. Peut-être pour empêcher qu'un ennemi les saisisse par les cheveux, elles étaient quasiment rasées.
Thora se pencha en avant sur son trône.
« Que nous amènes-tu, Adessa? On dirait un esclave miteux, pas un de tes gladiateurs en formation. »«
Ça, un guerrier !»
lança Ivan.
« Tout juste bon à nourrir mes panthères !»
La plus âgée des trois femmes, la mieux musclée aussi, avança d'un pas. Ses cheveux ultra courts déjà grisonnants, elle avait des yeux noirs brillants comme les plumes d'un corbeau.
En d'autres circonstances, on se serait extasié sur sa beauté, mais là, on ne pouvait qu'écouter son rapport d'une précision toute militaire.
« Ce n'est pas un de mes gladiateurs, ni un type tiré d'une cellule. Non, et il s'agit d'un simple berger de Yaxen, mais mes Morassites l'ont pris en flagrant délit. Il soutient les rebelles. »
Les deux autres guerrières prirent le pauvre berger par les bras et le traînèrent vers l'estrade. Les mains attachées devant lui, il ne put guère résister. Pensif, Nathan se tourna vers Nietzsche.
« Morassites, ce nom ressemble étrangement à Mordecites. Quoi qu'il en soit, ces femmes sont puissantes et dangereuses, et elles aiment porter du cuir, pas assez pour être protégées, cependant. »
Nietzsche étudia les trois guerrières.
« Dans un lointain passé, il y avait peut-être des racines communes. »
Ces Morassites, chargés d'entraîner des gladiateurs, ressemblaient effectivement aux Mordecites, des femmes insensibles à la magie qui se vêtaient de cuir et juraient de protéger le seigneur Ral au prix de leur vie.
J'ignore quelles sont les origines des Mordecites, Andara. Il y a des millénaires, il pouvait s'agir d'un seul et même groupe, séparé ensuite par les grandes guerres. Ildakar étant isolé depuis des lustres, ces femmes ont pu évoluer à leur manière et suivre leur propre chemin. Bref, s'il y a des ressemblances avec les Mordecites, les différences doivent être plus importantes.
Bannon, remarqua Nietzsche, ne parvenait pas à détourner le regard des trois femmes.
« Si c'est un esclave indocile,
grogna Ivan,
pourquoi ne pas le jeter dans l'arène? On sera débarrassé de lui. »
« Un esclave qu'on ne peut contrôler est inutile,
approuva Thora.
« Je ne suis pas indocile, cria le berger. Je me bats pour la liberté. »
Adessa jeta un regard en coin au dresseur en chef, puis se concentra de nouveau sur la Sovréna.
Nous l'avons surpris près des cages des animaux dans l'enclos de l'arène. À l'évidence, il voulait libérer plusieurs bêtes pour semer la panique en ville, comme les rebelles l'ont déjà fait. Les animaux doivent être dressés pour boire le sang des nobles,
lança le berger. Sans succès, il tentait de s'arracher à la prise des deux guerrières.
Tant pis pour elles, lâcha Thora. Mais les bêtes devront se contenter de chair d'esclaves au goût amer. Leurs crocs et leurs griffes te libéreront. Libre, je le suis déjà,
déclara le berger.
Masque miroir m'a métamorphosé, comme il le fera avec nous tous.
Il y eut des murmures parmi les conseillers. Alors qu'Elsa semblait très inquiète, Ren et Quentin marmonnaient entre eux.
Pourquoi masque miroir?
Demanda Nathan.
C'est un nom étrange.
Parce qu'il porte un masque miroir,
répondit Quentin.
Ça tombe sous le sens.
Ça ne nous dit pas pourquoi il a choisi ce masque,
intervint Nietzsche. On raconte qu'il a été défiguré par un sorcier de chair, daigna expliquer Maxime.
Son visage est si laid que les gens préfèrent voir un reflet du leur à leur place.
À moins qu'il veuille refléter la laideur du monde qui l'entoure,
suggéra Nietzsche. Cette remarque lui valut un regard courroucé de Thora.
Ou bien,
ironisa Maxime, il aime que les gens racontent des histoires à son sujet. Une façon de passer pour plus mystérieux et puissant qu'il l'est.
Quelle que soit la raison, je ne le prends pas au sérieux, ce serait lui donner trop d'importance.
As-tu prêté l'oreille à ses revendications?
Demanda Nathan.
Les rebelles ont toujours une raison de se révolter.
Le mécontentement se nourrit de lui-même,
lâcha Thora.
La solution, c'est de l'étouffer dans l'œuf.
Les yeux rivés sur le prisonnier, Nietzsche avança.
Je voudrais parler avec ce garçon. Un berger de Yaxen n'a rien d'un héros ni d'un martyr. Il serait intéressant de savoir pourquoi un tel individu se révolte, alors que ça le conduira sûrement à la mort.
Chère magicienne, ça n'a aucun intérêt,
dit Maxime. Il se leva et écarta les bras.
« Nous avons déjà été confrontés à ce genre de situation et je sais que faire. »
Nietzsche regarda l'esclave désormais mort de peur.
« Mais ça ne met pas un terme à la révolte. »«
Tu ne vas pas t'en mêler !»
rugit Thora.
« Ne voulez-vous pas tirer des informations de lui ?»
demanda Nietzsche. Comment pouvait-on ne pas saisir une occasion pareille ?«
Ce n'est ni nécessaire ni intéressant. » dit Maxime.
Se concentrant, Il plia les doigts et fut bientôt enveloppé de pouvoir, comme s'il attirait toute la magie présente dans l'air. Ses cheveux se hérissèrent, lui faisant une étrange couronne de pure puissance. « Ceux qui troublent l'ordre parfait d'Ildakar doivent être châtiés. Je ne suis pas seulement le sorcier en chef, mais aussi le maître sculpteur de la ville. » Adessa et les deux autres Morassites s'écartèrent du prisonnier, laissant à Maxime la place de travailler. Le berger se débattit contre ses liens, puis se redressa et fit un rictus au conseiller, à Thora et même à Maxime. Retroussant les lèvres, il se prépara à cracher. À ce moment précis, Maxime déchaîna son don. L'air scintilla, et un vent venu de nulle part s'enroula autour du jeune berger, l'immobilisant totalement. Sa chemise crasseuse devint soudain blanche, comme si elle était couverte de gypse en poudre. Désormais grisâtre, sa peau durcie et ses cheveux en bataille se cristallisèrent. Avec un craquement sinistre, il relâcha son dernier souffle, et une statue d'esclave indocile le remplaça au milieu de la salle. Le sort de pétrification ressemblait à celui que le juge suprême avait utilisé contre les habitants de Lockridge, puis sur Nietzsche. Mais ce démon avait été corrompu par la magie alors que Maxime la manipulait presque nonchalamment et en sachant très bien ce qu'il faisait. Yvan se leva les poings serrés.
« Tu as gaspillé ton énergie, Maxime, » dit-il. « Dans l'arène, ce berger aurait produit un très bon spectacle. À présent, qu'allons-nous faire de lui ?»
Thora regarda son mari puis hocha lentement la tête.
« Le tuer dans l'arène en aurait fait un martyr. » Une source d'inspiration pour Masque Miroir et sa vermine. La solution de Maxime était la meilleure.
Et j'ai si rarement l'occasion d'utiliser mon don, se plaignit le sorcier en chef.
Il regarda Nietzsche avec un sourire provoquant. À l'évidence, il ne faisait pas allusion qu'à la magie. Désireux de l'impressionner, il espérait sans doute la faire changer d'avis lors d'une prochaine invitation à une partie de plaisir. « Je suis le maître de la pétrification. Il y a des siècles, c'est moi qui ai conçu et contrôlé le sort qui a neutralisé l'armée du général Outros. »«
Oui, tu as été la clé, »
concéda Thora.
« Mais nous t'avons tous aidé à la faire tourner dans la serrure. Tu n'es pas le seul capable d'utiliser la magie. Ne me suis-je pas chargé de Lani quand elle s'est retournée contre nous ?»
La Sovrana regarda la magicienne pétrifiée au fond de la salle.
« C'est vrai, très cher, et loin de moi l'idée de minimiser tes exploits. »
Maxime croisa les bras. Après sa démonstration, il semblait satisfait et détendu.
« Je propose que cette statue soit exposée dans un endroit où elle fera son petit effet. Sur le marché aux esclaves, par exemple, elle les guérira un peu et tiendra lieu d'avertissement. »
Après que des esclaves furent venus chercher le berger pétrifié, Thora se rassit et dévisagea tour à tour les conseillers.
« Yvan a raison. Il y a trop longtemps que nous n'avons plus assisté à un spectacle dans l'arène. Remédions plus vite à cette lacune, Yvan. Quand peux-tu être prêt ?»
Sa tunique blanche constellée de taches rouges récoltée dans son studio, André entra dans la salle à cet instant précis.
« Eh bien, » dit-il en s'essuyant le front d'un revers de la main. « On dirait que j'arrive au bon moment. Mon expérience est terminée. Une œuvre de sang très réussie. Dès demain, notre nouveau combattant pourra faire ses débuts dans l'arène. »
Maxime ne cacha pas sa jubilation.
« Alors disons demain, »
s'exclama-t-il.
« Il va falloir imaginer un programme. »